don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的
某位男子家，正忙着跟人聊天。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde, avec aujourd'hui Marc Semo. Bonjour Marc.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, on va parler aujourd'hui des États-Unis. Depuis mercredi, le camp républicain, son candidat à la Maison Blanche, et ce sera bien Donald Trump. En effet, après sa victoire dans l'Indiana, une victoire une nouvelle fois inattendue, à en croire les sondages, qu'il donnait 20 points derrière son principal adversaire Ted Cruz, censé l'emporter grâce à l'électorat évangélique. Le réputé modéré gouverneur de l'Ohio, John Kasich, a abandonné la course à l'investiture, tout comme l'avait fait d'ailleurs Ted Cruz avant lui. Alors pourquoi les observateurs n'ont-ils pas vu venir la victoire de Trump dans ses primaires? Peut-il désormais l'emporter dans ce qui devrait être peut-être un duel face à Hillary Clinton, malgré les études qui globalement le voient déjà perdant? Le Greenhold Party va-t-il le soutenir? Et d'ailleurs, quelles seront les conséquences pour le parti républicain qui a tout fait pour lui barrer la route jusqu'ici? Pour l'heure, rien n'est moins sûr. Le président de la Chambre des représentants du Congrès, Paul Ryan, a fait savoir qu'il n'était pas encore prêt à l'appuyer et qu'il lui faudra d'abord unifier le parti vers l'Amérique de Donald Trump. Ce sera notre sujet dans quelques instants. Avec d'ores et déjà avec nous en plateau, Annick Cizel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Vous êtes une spécialiste de politique étrangère. À vos côtés, Nicolas Dungan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous chercheur à l'Atlantic Council. Vous êtes conseiller spécial à l'IRIS et vous êtes également enseignant à Sciences Po. Avant de vous retrouver les uns et les autres autour de cette question vers l'Amérique de Donald Trump, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'Association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient d'Irak et de Syrie.
Tu as tué des gens?
Ouais.
Beaucoup?
Ouais. Ouais, j'ai assassiné en 2006, en 2007, jusqu'en 2010. J'aimais faire ça. J'étais doué. Je pouvais marcher à côté de quelqu'un, rigoler avec lui et lui tirer une balle dans la tête. J'étais un artiste. Un vrai de vrai. Daesh est né à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. La plupart des dirigeants étaient des prisonniers d'Abu Ghraib et de Boka. En prison, on avait une formation coranique et une formation à la stratégie de la guerre. Je ne te dis que la vérité. Je suis condamné à mort et personne ne va venir me sortir de là.
Voilà, un prisonnier irakien, membre de l'État islamique, condamné à mort. Un condamné à mort fier de ses violences, on l'entendait. Un homme recruté et formé en 2006 à l'intérieur de la prison d'Abu Ghraib, à l'époque contrôlée par les Américains, par un réseau qui allait devenir peut-être la plus importante organisation terroriste d'aujourd'hui, Daesh. Bonjour Kamel Redouani.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes grand reporter, réalisateur. On vous reçoit pour ce documentaire Daesh aux origines de la terreur, dont on vient d'entendre un extrait et qui sera diffusé le 12 mai prochain dans Envoyé spécial sur France 2. Ces dernières années, vous êtes rendu à maintes reprises à la fois en Irak et en Syrie. Dans ce documentaire, vous avez retracé sur le temps long l'évolution du conflit pour tenter de comprendre l'émergence de Daesh, les alliances, les luttes. Vous avez eu l'autorisation, Kamel Redouani, de rentrer et de filmer à l'intérieur de cette prison d'Abu Ghraib qui est fermée, rappelons-le, depuis 2014 maintenant. Alors on a tous évidemment encore en tête ces fameuses images de soldats américains torturant, humiliant des prisonniers irakiens. Vous êtes à ce moment-là, vous, accompagné donc par les hommes qui sont en charge aujourd'hui de la surveillance du site, qui sera peut-être détruit. Ils veulent évidemment pas être filmés. Vous vous enfoncez comme ça dans les couloirs, dans les cellules, vous pénétrez dans l'une d'elles, où on a de vieux objets délabrés, poussiéreux, qui sont entassés. Vous retrouvez là une pile de livres avec des versions du Coran. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Kamel Redouani, dans ce lieu qui a constitué, on va le voir, le berceau de l'organisation de l'État islamique? J'imagine qu'on touche du doigt justement cette fameuse responsabilité occidentale dans ces atrocités actuelles. On voit là le germe de cette violence et de cette radicalisation.
Exactement. D'abord, j'étais vraiment surpris par le fait que les responsables au fait du lieu ne voulaient pas, mais alors pas du tout être filmés, ni même quand on entend leur voix. Ils se mettaient derrière moi, ils avaient peur, au fait. Ils avaient peur des hommes de Daesh, ils avaient peur d'être tués parce que ils ont parlé dans ce lieu qui est devenu un lieu réellement sacré pour les terroristes de Daesh, pour les gens d'Al-Qaïda qui étaient prisonniers là-dedans.
Pourtant, vous avez eu l'autorisation d'y filmer?
Je n'ai pas eu d'autorisation. J'en ai eu 10, c'est-à-dire il y a quasi 10 checkpoints, 10 responsables. À chaque 200 mètres, il y a des responsables différents. Et il faut. Je revenais chaque jour, au fait, et je découvrais chaque jour que c'était un autre responsable qui prenait les deux prochaines 100 mètres que je devais parcourir pour rentrer dans la prison. Cette prison, aujourd'hui, elle est le symbole pour les terroristes, c'est un symbole d'humiliation, c'est un symbole qu'ils veulent détruire. Ils veulent réellement détruire ce lieu parce que ça leur rappelle l'humiliation, ça leur rappelle ce qu'ils ont subi au fait de la part de l'armée américaine, mais aussi des Irakiens de l'armée irakienne. Moi, ce que j'ai ressenti là-dedans, c'est j'étais tout seul, j'avais 15 personnes derrière moi, j'avançais. C'était assez incroyable parce que je ne savais pas ce que j'allais découvrir et je me suis rattaché avec ma caméra, je me suis rattaché aux images, au fait, à la vie qu'il y avait là.
Les images, justement, à un moment, vous rentrez dans une cellule et vous découvrez une fresque peinte sur le mur.
Exact.
Racontez-nous.
Cette fresque est incroyable parce que c'est un prisonnier qui l'a dessiné et ce qu'il y a dessus, c'est vraiment l'histoire d'Al-Qaïda, l'histoire de Daesh. C'est-à-dire, ce prisonnier a dessiné des têtes coupées, des chars qui brûlent et lui, fier, face à ces chars qui sont en flammes. Donc, il a dessiné ce qu'il rêvait de faire et finalement, c'est ce qu'ils ont fait pendant les 10 années qui suivent.
Alors, votre enquête débute à Kobané, là où l'État islamique a cherché pendant des mois à s'imposer, les Kurdes parvenant à les repousser, on s'en souvient. Vous y rencontrez Mustafa, qui est un Kurde qui va vous accompagner et qui va vous permettre de rencontrer les soldats de l'armée syrienne libre. Sur le chemin, vous passez par une petite ville, Tal Abyad, qui a été dirigée par Daesh pendant quasiment un an, grâce notamment au soutien d'une partie de la population. Dans la ville, d'ailleurs, on voit encore les traces de tout ça, parce qu'on voit cette fameuse cage dans laquelle les djihadistes enfermaient les récalcitrants, les filmants, pour construire justement cette fameuse propagande visuelle qui allait être diffusée partout dans le monde. Donc c'est ce qu'on appelle ici le rond-point de la mort. Alors on vous dit que tout le monde est encore très imprégné par toute cette barbarie, en particulier les enfants. Daesh a marqué bien sûr au fer rouge ces jeunes esprits qui finalement demain feront peut-être de nouveaux terroristes. Et vous y croisez une jeune femme, Erin, qui savoure aujourd'hui sa liberté, mais qui vous dit aussi que tout ça est très fragile encore.
Exactement. Cette jeune femme m'a vraiment touché parce que elle a décidé d'abord de prendre un appareil photo, de filmer, de photographier ce qui se passe dans sa ville, à Tal Abyad. Elle prend beaucoup de risques parce que c'est une femme d'abord. Elle prend beaucoup de risques parce que la population est à 30% encore. Elle soutient encore les hommes de Daesh. C'est une ville sunnite et elle se baladait vraiment. Moi, je la regardais marcher fièrement dans la rue. Je me dis, mais quel courage, mais c'est extraordinaire. Elle est vraiment extraordinaire. Et bien sûr, c'est fragile parce que on a mis une bombe devant le lieu où elle exerce. C'est simplement un bâtiment qui est prêté par quelqu'un. D'ailleurs, il veut les virer. Elles sont trois filles dans cette ville à vouloir être des journalistes, à exercer en tant que journaliste citoyen. Enfin, et c'est incroyable, c'est un courage incroyable et bien sûr l'équilibre est fragile parce que à n'importe quel moment, et d'ailleurs quelques semaines après mon départ, il y a eu une attaque de Daesh sur cette ville, donc effectivement l'équilibre est très 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 fragile.
Vous poursuivez votre chemin, vous arrivez sur donc cette base de l'armée libre syrienne, vous y trouvez un groupe baptisé les révolutionnaires de Raqqa, avec à leur tête Abou Sef. D'ailleurs il y a une scène assez étonnante à ce moment-là, parce que quand vous arrivez, il y a un homme qui arrive aussi à la rencontre justement de ces révolutionnaires pour leur demander l'autorisation d'aller en territoire de l'État islamique, ce qu'il ne va pas pouvoir faire. Mais quoi qu'il en soit, le constat est là, c'est-à-dire que l'armée syrienne libre, elle est très affaiblie, beaucoup de soldats évidemment sont morts, d'autres ont rejoint les rangs de l'État islamique, et l'armée syrienne libre n'est plus que l'ombre d'elle-même, c'est ce que vous constatez.
Ah oui, clairement. J'aurais voulu rencontrer l'armée syrienne libre que j'ai rencontrée au début de la révolution, qui était fière. Ils chantaient, ils allaient au combat vraiment fièrement. Ils protégeaient les manifestants. Aujourd'hui, c'est une armée qui complètement, mais c'est une des pauvres gars entre guillemets qui étaient là dans cette maison et qui restent, qui croient encore. Ce qui est incroyable, c'est-à-dire ils croient encore. qu'ils vont pouvoir gagner la bataille, qu'ils vont pouvoir gagner la bataille contre Bachar al-Assad, qu'ils vont pouvoir gagner la bataille contre Daesh.
Et ils se souviennent aussi, ça c'est très intéressant, ils se souviennent au fond comment les djihadistes sont arrivés. Ils vous expliquent comment ils se sont d'une certaine manière infiltrés, d'abord en se présentant comme des membres d'un groupe Jabhat al-Nusra, et puis ensuite ils vont découvrir que finalement ce sont des djihadistes.
Oui, et c'est une première. Hein. Des hommes de l'armée libre syrienne qui disent et qui parlent vraiment ouvertement et clairement en disant « on a combattu avec des gens de Daesh d'aujourd'hui. C'était nos amis, on a combattu avec eux. » C'est assez rare, hein, parce que... Oui, ils se souviennent, et je me souviens de la manière dont il m'a dit, en me disant « oui, ils sont arrivés, ils étaient habillés en blanc, c'était extraordinaire. Et nous, on était des pauvres gars. Ils nous ont dit, on va vous apprendre à mener la guerre, on va vous former. Et effectivement, ils ont essayé de les former à la fois à la stratégie militaire, mais aussi, au fait, en leur imposant d'aller faire la prière, etc.
Et puis aussi, en essayant peut-être de les convaincre, de les faire adhérer finalement à leur idéologie. Vous êtes procuré notamment une vidéo dans laquelle on voit justement un djihadiste essayer de convaincre que ces hommes de l'armée syrienne libre de les rejoindre dans leur combat. Il y a un débat qui s'engage autour du rôle, de la responsabilité, des objectifs des Occidentaux. C'est ça aussi qui explique le succès de Daesh, c'est qu'ils se sont infiltrés dans l'esprit de ces jeunes, en tout cas d'un certain nombre de ces jeunes révolutionnaires.
Bah, tout est dit dans cette image-là, c'est-à-dire on a dix jeunes installés par terre d'ailleurs, et on a le gars de Daesh installé sur une chaise qui est en train de leur expliquer qu'ils n'ont rien à faire avec les Occidentaux ni avec les Juifs d'ailleurs. C'était son discours, c'est en gros, c'est nous qui allons vous sauver, c'est à nous de vous aider. Ne croyez pas ce que vous disent les Occidentaux, ne croyez pas parce qu'ils sont, ils ne croient même pas en Dieu. Voilà, c'était ça son discours. Donc, en gros, c'est comme ça. C'était vraiment dans l'intimité des maisons, dans l'intimité des murs, que ces gens-là, au fait, petit à petit, distillaient leurs idées, leurs théories, et essayaient d'infiltrer d'une manière, d'ailleurs, très efficace, parce qu'ils ont réussi à le faire, le cerveau de ces jeunes.
Pour bien comprendre l'émergence de Daesh, il faut aussi peut-être rappeler qu'il y a eu une lutte entre deux personnalités, Mohamed El-Jounani, qui était à l'époque le chef du groupe Jabhat al-Nusra, justement affilié à Al-Qaïda en Irak, et puis Abu Bakr al-Baghdadi, qui va devenir le chef de l'État islamique. Vous êtes justement rendu dans la ville natale d'Al-Baghdadi pour comprendre qui est finalement cet homme. On est donc à Samarra, on est à 130 km à peu près de Bagdad. Vous êtes allé dans la première mosquée où il était imam. Vous êtes allé également dans sa maison. Et alors là, chose absolument incroyable, dans sa maison, aujourd'hui, ils vivent des réfugiés irakiens qui ont été contraints donc de quitter leur maison à cause de Daesh et qui se sont installés chez Al-Baghdadi.
Je ne savais pas ce que j'allais découvrir. J'ai essayé de découvrir qui est Abu Bakr al-Baghdadi, qui est celui qui s'est proclamé émir de Daesh. Donc, la meilleure façon de savoir, c'est de connaître son histoire et de savoir d'où il vient, quelle est sa tribu, d'où il vient. Je suis arrivé là-bas, j'ai réussi à rentrer dans Samarra, c'était très très difficile. Après être rentré, il fallait que je puisse rentrer dans son fief, c'est-à-dire dans sa tribu, chez lui. Et là, c'était... personne ne voulait m'accompagner, soyons clairs. J'ai dû demander l'aide de l'armée irakienne. Et après 3 heures, 4 heures et 20 thés consommés avec le général du coin, il a fini par craquer et par m'autoriser d'y aller en demandant au char, au fait, de m'accompagner pour me protéger. Donc j'arrive là-bas, je ne savais pas ce que j'allais découvrir. Et je découvre la maison de Baghdadi qui est habitée par des réfugiés. Mais quelle ironie du sort, c'est-à-dire c'est l'homme qui a envoyé 5 millions de réfugiés à travers le monde, sa maison, sa propre maison est habitée aujourd'hui par trois familles irakiennes. Donc c'est assez hallucinant, assez incroyable. Et avec l'accord de la tribu, ils sont quand même 1700 dans ce fief à porter le nom de Al-Badr, celui de Abu Bakr al-Baghdadi. Donc c'est vraiment incroyable. Et cette cette famille, enfin, pour eux, c'était normal. C'est-à-dire, il nous a détruit notre maison, bah, c'est normal qu'on habite chez lui. Enfin, aujourd'hui, on se réfugie chez lui. Mais il paye à la famille, quand même, un loyer, ce qui est aussi ironique, qui est incroyable.
Est-ce que vous dites à l'époque, les gens qui ont côtoyé justement al-Baghdadi dans cette première mosquée, c'est qu'à l'époque, c'était un imam modéré, avec des prêches relativement paisibles.
Et surtout, il donnait des cours à des enfants, tout simplement. Enfin, il avait une petite asso. C'est réellement une petite mosquée de la ville. C'était quelqu'un de très discret, quelqu'un de très modéré. Ça, j'en ai eu la confirmation par plusieurs personnes. Et réellement, il s'est transformé à partir du moment où il a été jeté en prison par les Américains.
C'est là où tout va se jouer. C'est là où va se jouer cette radicalisation.
Exactement. Al-Baghdadi représente, enfin, c'est réellement ce parcours, au fait, de pas mal de djihadistes. Il y avait Al-Qaïda, il y avait des Irakiens qui étaient plutôt modérés et qui, en les mettant avec Al-Qaïda en prison, ils se sont radicalisés.
Alors, il n'était pas lui à Abu Ghraib, il était à Boka, qui était un autre camp.
Il est passé par Abu Ghraib.
Il est passé aussi par Abu Ghraib.
Exactement, avant d'être transféré à Boka.
La grande question maintenant qu'il faut se poser, c'est dans ce camp de Boka, dans cette prison d'Abu Ghraib, il a côtoyé les anciens de l'armée irakienne. Est-ce qu'ils l'ont aidé? Dans quelle mesure est-ce qu'ils l'ont aidé à créer Daesh? Ça, c'est une question que vous êtes posée ensuite. Vous êtes ensuite, du coup, parti du côté de Tikrit, qui est la région natale de Saddam Hussein. Vous y avez rencontré sur place ses anciens officiers, notamment ceux qui n'ont pas rejoint justement les djihadistes. Vous rencontrez notamment le fils d'un ancien dignitaire du régime de Saddam, qui a fait des études à Londres et puis qui ensuite est revenu chez lui pour mener ses hommes au sein de la bataille contre les Américains à l'époque. Comment est-ce que lui, il perçoit justement l'émergence de Daesh? Il semble assez surpris de les voir aujourd'hui aussi puissants.
Ah, il est surpris de la puissance de Daesh, mais il n'est pas surpris par le fait qu'ils existent. Parce que, d'abord, il a financé Al-Qaïda, il ne s'en cache pas. Il a combattu avec Al-Qaïda, ses hommes ont combattu avec Al-Qaïda. Ce qui le surprend le plus, c'est qu'aujourd'hui, Al-Qaïda est devenue Daesh, mais aussi puissante que ça. C'est-à-dire, il ne pensait réellement pas, en les finançant en 2006, qu'ils allaient devenir ce qu'ils sont aujourd'hui.
Oui, parce qu'à l'époque, laïcs et radicaux étaient unis contre les Américains. Vous étiez, vous, déjà en 2006 à l'époque, vous aviez eu beaucoup de difficultés pour rencontrer, mais vous aviez finalement réussi à les rencontrer, vous aviez pu constater ça, évidemment.
Exactement. Enfin, moi, en 2006, je ne savais pas où je mettais les pieds exactement. Je me suis retrouvé, enfin, j'ai fait la demande d'aller rencontrer les gens d'Al-Qaïda. Je me suis retrouvé avec une moitié, au fait, d'anciens militaires, d'anciens officiers et militaires de Saddam Hussein, et l'autre moitié qui sont des membres d'Al-Qaïda. Donc, je me suis réellement retrouvé avec ce patchwork, ce mélange assez incroyable de laïcs, entre guillemets, parce qu'ils n'étaient pas complètement laïcs, et de gens d'Al-Qaïda, et qui combattaient la main dans la main. Donc, et je ne savais pas à ce moment-là que j'étais en face de gens qui allaient être le socle, la base de Daesh d'aujourd'hui.
Ah oui, parce que tout s'est construit, justement, on le disait, en prison. Le réseau primitif de Daesh, il s'est construit à Abu Ghraib, il s'est construit à Boka. Les islamistes extrémistes ont finalement radicalisé les anciens, en tout cas une partie des anciens officiers de Saddam. C'est ça qui a fait l'émergence de Daesh.
Tout à fait. C'est ce mélange entre des gens qui avaient la capacité de mener la guerre d'une manière militaire, avec la stratégie militaire, et de gens qui étaient des terroristes, qui savaient mettre des bombes, qui savaient exploiter, être incognito, mettre des bombes et réagir d'une manière terroriste. C'est ce mélange, au fait, de deux technicités de guerre qui a fait le Daesh d'aujourd'hui. D'ailleurs, les combats de Daesh aujourd'hui, quand on parle à des militaires sur place, ils disent tous la même chose, c'est-à-dire ils attaquent comme des terroristes, et ils ont une stratégie militaire, ce qui est incroyable. Ils ont vraiment le combat au sol est vraiment extraordinaire.
Ouais, parce qu'une fois autoproclamé calife, il va faire libérer ses anciens camarades, et ils vont pouvoir commencer finalement toute la conquête de la région. Et évidemment, les grands perdants dans tout ça, c'est bien sûr les Syriens, ceux qui avaient commencé la révolution, et ils ont encore un peu d'espoir de voir émerger une démocratie en Syrie.
J'espère, en tout cas j'ai ressenti cet espoir et j'espère encore le ressentir à chaque fois que je mets les pieds en Syrie, parce que c'est ça qui me fait revenir, moi, en Syrie, c'est cet espoir-là, c'est ce regard de ces gens, c'est l'envie encore que les choses s'arrangent et que la démocratie gagne sur l'horreur et la barbarie.
Je voudrais faire réagir peut-être nos invités en plateau, parce qu'on va parler tout à l'heure des États-Unis. Évidemment, c'est pas sans lien, bien au contraire, on le comprend bien. On se souvient que Hillary Clinton avait voté pour l'intervention en Irak. On sait aussi que Trump, lui, a répété plusieurs fois que c'était une erreur. Il apparaît comme beaucoup moins interventionniste, d'ailleurs, finalement, que la candidate, celle qui sera probablement la candidate démocrate. Dans quelle mesure, Annick Cizel, vous pensez que justement ça pourrait jouer dans la future élection ?
Clairement, la polarisation qui est en train de se mettre en place, si on part effectivement sur le principe que Hillary Clinton va émerger candidate de la Convention démocrate du mois de juillet, et à ce stade, je ne fais plus aucun pari sur rien, ou en tout cas sur la marge de manœuvre qu'elle aura à la sortie de la Convention démocrate. Mais si on part sur un binôme Trump-Clinton, effectivement, la polarisation est en train de grandir, et en faveur d'une lecture plus conservatrice d'Hillary Clinton, effectivement, beaucoup plus interventionniste, beaucoup plus... Même si c'est Donald Trump qui, par moment, parce qu'il change beaucoup d'avis, parle d'envoyer les boots on the ground, parle d'envoyer des troupes en Syrie, il apparaît beaucoup plus probable que c'est du côté d'Hillary Clinton que ce type de réintervention plus visible et plus marqué et moins diplomatique, disons, pourrait réapparaître. En d'autres termes, les leçons que nous sommes en train de tirer de ces 10 dernières années et ces longs 10 ans ne sont pas encore totalement digérés, je pense, par les deux grands partis.
Nicolas Dengan, Trump a redit récemment que s'il était élu, il ne faudra pas beaucoup de temps pour éradiquer l'État islamique. On ne sait pas très bien comment il va s'y prendre, mais
pour lui, ça ne semble pas être un problème. Cette élection, c'est que, et c'est très rare dans l'histoire américaine, c'est que la politique étrangère et surtout la place des États-Unis dans le monde occupe une place centrale dans les débats.
Merci beaucoup, en tout cas, Kamel Redouani, d'être passé dans nos studios. Je rappelle votre documentaire Daesh aux origines de la terreur qui sera diffusé le 12 mai prochain dans Envoyé spécial sur France 2. Il faut voir ce documentaire, il est vraiment excellent, il n'y a pas de flagornerie, c'est absolument excellent le travail que vous avez fait. Merci beaucoup.
Merci.
On va se tourner dorénavant du côté des États-Unis. Je le disais tout à l'heure, Donald Trump est désormais le seul candidat encore en lice dans l'investiture républicaine. Il a fini par venir à bout de tous ses adversaires. Ted Cruz et John Kasich ont pourtant tout essayé en se retirant l'un dans l'Indiana, l'autre dans l'Oregon et appelant leurs électeurs à barrer la route à leur adversaire commun. Mais la manœuvre s'est finalement retournée contre eux et Donald Trump sort donc gagnant.
C'est une victoire incroyable. Une journée, une soirée, une année incroyable. Je n'ai jamais rien connu de pareil. Nous allons maintenant nous attaquer à Hillary Clinton. Hillary Clinton, voilà bien un thème qui devrait rassembler les républicains. Elle ne sera ni une excellente ni une bonne présidente. Elle sera une mauvaise présidente.
Voilà donc extrait du discours de Trump à la Trump Tower du côté de New York. Il ne reste donc plus qu'à Donald Trump d'être officiellement désigné par son parti lors de la convention pour affronter celle qui devrait a priori être son adversaire pour la présidentielle de novembre, Hillary Clinton, qui semble en bonne voie et dont on ne voit plus très bien comment elle pourrait être rattrapée par Bernie Sanders, qui quand même a dit qu'il mènerait la bataille jusqu'à la convention démocrate. Trump peut-il l'emporter vers l'Amérique de Donald Trump ? C'est notre sujet désormais avec Annick Cizel, Nicolas Dengan et Marc Semo du Monde, qui est notre partenaire le vendredi. Marc, ça fait des mois que tous les analystes nous expliquent que Trump n'ira jamais au bout, qu'il va être broyé par la machine des primaires. Voilà que c'est lui qui a broyé le système, ce qui révèle aussi peut-être beaucoup de la crise politique que traverse le pays. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas retomber dans la même travers. Et il faudrait peut-être dire que Hillary Clinton, ben pour elle, ce n'est pas complètement gagné. Et qu'en réalité, Trump a ses chances. Et on va le voir, il y a des éléments qui le laissent penser, Marc.
Ce risque est réel, mais justement, venons un peu à ce monde selon Trump, si... Il est finalement élu. Et en politique étrangère, le danger qu'il représente n'est pas nécessairement celui qu'on croit. Malgré ses déclarations tonitruantes sur l'islam, etc., il n'a rien d'un docteur Folamour qui est prêt à porter la guerre partout. Au contraire, son mot d'ordre, c'est « America first », »,« Amérique d'abord ». Et sur cette antenne, d'ailleurs, Hubert Védrine, il y a 15 jours, 3 semaines, disait que sa vision du monde est un peu une caricature beauf, je cite ses mots, entre guillemets, de celle d'Obama. C'est-à-dire, notamment, la critique extrêmement dure des interventions extérieures. Alors que Hillary Clinton, par exemple, là-dessus, est beaucoup plus dans cette tradition de ce qu'on a appelé le wilsonisme beauté de ses interventions. C'est l'intervention en Irak, mais même l'intervention en Libye, où, avec Obama, les Américains étaient restés en arrière. Hein, et il y a aussi cette critique très dure, cette idée qu'on ne peut pas exporter la démocratie par la force. Par rapport à la Russie, il a d'abord une certaine fascination pour Poutine, et exactement comme Bush en son temps, il parle de « reset » avec la Russie. Et surtout, il dit aussi que l'Amérique ne veut plus payer pour ses alliés. Alors ça concerne le Japon, la Corée du Sud, mais surtout aussi les Européens. C'est-à-dire, aujourd'hui, il dit, voilà, l'OTAN, il y a les passagers clandestins, l'Amérique fait l'essentiel des efforts, donne l'essentiel du budget, et les Européens sont dedans, donc il est temps, et ça pose un défi, que les Européens pensent réellement à ce que doit être aujourd'hui leur défense dans un monde qui est quand même très incertain et dangereux. Donc, d'une certaine façon, il y a cette réalité, s'il gagne, d'un retour à l'isolationnisme, hein, qui est une vieille tradition, notamment chez les Républicains. Hein, les néoconservateurs, ça a été une espèce de parenthèse chez les Républicains. Et c'est peut-être ça, aujourd'hui, le grand défi que nous lance Donald Trump.
Beaucoup de choses à voir hein, dans cette émission, politique intérieure, politique étrangère. Annick Cizel, d'abord sur la possibilité de cette victoire de Trump, quels sont les éléments qui vous semblent permettre de penser que finalement la victoire de Trump n'est pas aussi improbable qu'on voudrait bien le dire parfois et que voudrait bien nous laisser penser un certain nombre de sondages sur la question?
Alors je crois que la grande leçon des primaires, et on n'est pas tout à fait au bout, il faut attendre encore la Californie le 7 juin, mais... Désolé pour les autres États, mais c'est vrai que la Californie va être vraiment un test. La grande leçon des primaires, c'est qu'il faut cesser d'écouter les sondages et il faut entendre l'électorat américain. Alors certes, c'est un électorat représentatif jusqu'à un certain point, parce que certaines estimations chiffrées disent que 4,7% de la population s'est déplacée pour voter pour Donald Trump, ce qui, à l'échelle du corps électoral, permet de relativiser un tout petit peu ce résultat, ce raz-de-marée des primaires, et empêche toute projection État pour État, population pour population, vers les élections générales du 8 novembre. Néanmoins, on a un raz-de-marée. Les sondages, les médias, les analystes bien informés sont passés à côté. Ce qui explique, je crois, dans une très large mesure, c'est la difficulté, et là je verrai deux grilles de lecture, il y a une énorme difficulté en Europe à comprendre ce qui se passe actuellement aux États-Unis, mais beaucoup plus choquant, quelque part, beaucoup plus surprenant, une incapacité aux États-Unis à prévoir ce qui est en train de se passer, qui pourtant me semblait pas si imprévisible que ça. On a effectivement une Amérique aujourd'hui, toute une Amérique blanche, ouvrière, qui pivote sur ses bases, pour utiliser un terme très, très obamien, qui pivote sur ses bases, qui vit en même temps la fin d'un cycle politique. Le Parti républicain, aujourd'hui, est sans doute le grand perdant de la victoire supposée de Donald Trump. Comment le Parti républicain va réussir à se rééquilibrer autour de Donald Trump, ça va être le show des deux mois qui viennent jusqu'à la convention républicaine. C'est vraiment un jeu d'équilibriste. On est dans un cycle de mutation économique où une Amérique post-industrielle, où les ouvriers qui votaient démocrates jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, ont été les oubliés ressentent. Ce n'est pas forcément les oubliés, mais leur ressenti est celui qu'ils ont été les oubliés de la remontée de l'économie américaine ces 10 dernières années. Pour eux, les stigmates de 2007-2008 de la Grande Récession sont toujours là. Et cette Amérique de petits cols bleus, d'ouvriers blancs, se sentent de surcroît dépassés aujourd'hui par la mondialisation, par un monde qui a changé et qui... ils sont très nostalgiques et quelque part Trump amène cette nostalgie des années Reagan en permanence. Et enfin, dépassé parce que la composition communautaire ethnique des États-Unis est en train de changer. Si Hillary Clinton est élue présidente le 8 novembre, il est vraisemblable qu'elle sera la première présidente élue par la majorité des minorités si le clivage continue comme ça avec Bernie Sanders. C'est-à-dire que ce sont les minorités ethniques qui vont la porter, et peut-être les minorités femmes aussi, qui vont la porter à la présidence. Donc c'est cette révolution interne aux États-Unis qui, je pense, est en train de s'exprimer à travers ce raz-de-marée.
Même si chez les femmes, elle n'a peut-être pas l'écho qu'on pourrait imaginer.
Même si elle ne fera pas forcément plein des voix. Aussi.
Nicolas Dengan, une réaction. Est-ce que la victoire de Trump vous paraît possible? Quels sont ses atouts en la matière? C'est vrai que face à Clinton, la question économique qu'évoquait Annick Sizel, on a l'impression qu'il, en tout cas, il veut apparaître comme le candidat finalement qui protège l'emploi des Américains, et ça va être un véritable atout pour lui.
Alors, d'abord, il n'y a pas tous les analystes qui, depuis 6 mois ou un peu plus, disent que Trump ne veut pas gagner, parce que
très grande majorité.
Cet analyste-ci qui vous parle dit depuis la fin de l'année dernière que c'est un Américain réel, avec des Américains réels qui le soutiennent réellement. Et qu'il faut comprendre qu'il y a deux côtés du caractère américain. Il y a le côté européen, qu'on a vu au tout début des années de la République, de 1776 à 1815, et qu'on a vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est les Américains que les Européens reconnaissent et où ils s'y reconnaissent. Et puis, il y a une autre Amérique, il y a un autre caractère américain, c'est le Far West, c'est l'Amérique jacksonienne, c'est l'Amérique qui avait une totale liberté de s'élargir sur son propre continent entre 1815, fin de la guerre de 1812 avec les Anglais, et 1917, où les Américains sont revenus en Europe. Et d'ailleurs, vous y avez fait référence, vous deux, à l'entre-deux-guerres, il y a eu de nouveau cet isolationnisme, de nouveau cet America First.
D'accord, donc on a oublié cette Amérique-là, ce qui peut nous laisser penser que Trump peut l'emporter.
Non, il faut comprendre une chose de plus, c'est que cette Amérique-là est une Amérique où la réussite se mesure non pas seulement par l'argent, mais par le fait de gagner. On doit gagner. You have to win. Et c'est ça que Trump veut. Il n'est pas là pour la philosophie, il n'est pas là pour représenter des gens, il est là parce qu'il veut gagner. Et à partir du moment où il a gagné, et gagner, c'est détruire l'opposition. C'est pas seulement avoir un vote de plus, c'est pas relativiser les choses. C'est soit je gagne et je détruis tout le monde, et là je peux faire ce que je veux, soit je ne gagne pas. Et lui, il veut gagner. Donc la raison pour laquelle il a été sous-estimé, c'est parce qu'on n'a pas compris sa mentalité en tant qu'Américain jacksonien, pour qui gagner représente tout. Et la faiblesse d'Hillary Clinton, et les faiblesses d'Hillary Clinton, dont on peut reparler, représentent un vrai atout pour lui, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que il y a la politique aux États-Unis, et tous les jacksoniens qui sont dans la politique aux États-Unis, qu'on ne voit pas en Europe, et c'est pour ça d'ailleurs, je ne suis pas d'accord d'ailleurs, qu'il y ait deux grilles de lecture. Il y a une grille de lecture, il y a l'establishment, c'est les Européens, et l'establishment de Washington et des côtes Est et Ouest, et puis il y a l'Amérique jacksonienne au milieu. Et c'est cette Amérique jacksonienne que Donald Trump, New-Yorkais d'ailleurs, ce qui est bizarre et curieux, exprime. Et
pas attendez.
Oui.
Quelle va être la stratégie maintenant? Est-ce que, justement, il va vouloir faire comme il a fait avec les primaires, c'est-à-dire tout écraser sur son passage et,
absolument,
à la limite, balayer finalement le parti, le Grand Hall Party? Ou est-ce qu'il va miser sur un soutien du Grand Hall Party?
La réponse, c'est oui et oui. Et c'est oui et oui parce qu'il va faire ce qu'il faut pour gagner. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et c'est ce que j'ai commencé à dire, c'est qu'aux États-Unis, il y a une vraie conception de la puissance. Pas seulement du pouvoir, mais de la puissance. Et la politique, c'est un moyen de puissance. Or, il y a des gens extrêmement idéologiques et extrêmement fâchés et extrêmement méchants, qui veulent à tout prix détruire Hillary Clinton. Objectivement, Trump aura leur soutien sans le demander. Donc, il peut virer vers le centre, être gentil avec tout le monde, et il saura très bien qu'il y a des méchants qui sont là pour l'aider à gagner.
Annick Sizel, et puis ensuite Marc Semaux, sur la question du soutien du parti. Est-ce qu'il l'aura? Est-ce que le parti va se résoudre à soutenir Trump?
Ça a déjà commencé. C'est-à-dire qu'il y a eu des grandes déclarations, notamment du côté des spécialistes de politique étrangère. C'est vrai qu'il y a énormément de points communs, beaucoup plus facilement, de terreaux communs au niveau des spécialistes de politique étrangère entre démocrates et républicains. J'allais dire le plus célèbre pour l'instant qui a proclamé « Si Trump est candidat pour le Parti républicain, je voterai pour Hillary Clinton », c'est Robert Kagan, ancien néoconservateur, conseiller de George W. Bush. Il y a une crainte sur le bouton nucléaire. Très concrètement, il y a eu des lettres, des pétitions signées par toute une partie de l'establishment républicain, spécialiste de politique étrangère et de défense, contre Trump. Il va être difficile de s'en défaire. Mais ça, ça n'est pas l'establishment du parti. L'analyse, l'analogie avec Andrew Jackson, je la pousserai même beaucoup plus loin. Andrew Jackson a fondé le Parti démocrate d'aujourd'hui, en 1824, sur la fin d'une idéologie, sur la fin de certains partis politiques qu'il considérait comme corrompus. Je ne vais pas traiter le Parti républicain aujourd'hui de corrompu, sauf que le
Vous
Parti
pouvez,
républicain,
hein.
Sauf que le Parti républicain, je suis française, neutre ici, le Parti républicain a été à la tête de la Chambre des représentants, puis du Congrès, pendant 6 ans, et que le bilan législatif de ce Parti républicain pendant 6 ans est perçu par l'électorat républicain comme une trahison. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire ou à défaire de la politique de l'exécutif démocrate d'Obama? Pas grand-chose. Ils ont réussi à paralyser le pays. L'exécutif d'Obama, je vais en mettre un petit peu chez les démocrates aussi, n'a pas réussi à transcender ça. Je pense de plus en plus à Kennedy, en pensant à Obama, opposé à Lyndon Johnson. Ce que Joe Biden aurait pu être, mais n'a pas réussi à être. C'est-à-dire comment transcender les blocages au Congrès et permettre au pays d'avancer et de se réformer, malgré les blocages partisans. Trump se présente à ce niveau-là comme, quelque part, le président post-partisan qu'Obama prétendait être et n'a pas réussi à être. Mais ce qu'était Andrew Jackson à l'époque, le président des États, le président des individualités, de l'homme de la rue, contre les partis politiques qui ont montré leurs limites. Et la crise idéologique que traverse le Parti républicain aujourd'hui, c'est l'opposé du Parti démocrate que fonde Andrew Jackson à l'époque, mais je lis certaines causes communes qui sont en train de produire les mêmes effets, effectivement.
Nicolas Dengan, et puis ensuite on passera à la politique étrangère. Je précise
que moi aussi, je suis analyste et neutre. J'ai été élevé comme dans une famille qui votait républicain à cause d'Eisenhower et je ne suis pas plus démocrate que républicain dans ce débat. Et d'ailleurs, quand j'habitais aux États-Unis jusqu'il y a 2 ans, j'étais inscrit comme un indépendant dans l'État de New York, ce qui garantit que vous ne pouvez pas voter dans les primaires.
Sur la politique étrangère, très récemment, c'était fin avril, c'était il y a quelques jours, Trump a fait un discours sur sa politique étrangère dans un hôtel de Washington. Il y a expliqué que la politique étrangère américaine devait suivre des objectifs clairs, mais s'éloigner des idéologies. D'une certaine manière, on retrouve ce que disait Marc Semo tout à l'heure, c'est-à-dire la fameuse vision beauf, je reprends la formule d'Hubert Védrine. Mais c'est vrai que c'est assez difficile quand même d'entrevoir ce que serait la politique étrangère de Trump.
Marc Semo, vous voulez intervenir ? Non, et surtout, il y a un effet de brouillage des lignes. Hillary Clinton et Donald Trump.
Annick Cizel.
Alors, c'est la migraine actuelle d'essayer de rationaliser le discours de Donald Trump et au-delà des contresens qu'il fait par rapport à sa propre analyse ou au fil du discours, il se contredit lui-même. Mais indépendamment de ça, je crois qu'il y a quelques lignes qui se dégagent. Retour à l'isolationnisme, oui. Est-ce que ce sera sa politique s'il est élu président des États-Unis ? Lui seul le sait, parce qu'aujourd'hui, il est en train d'essayer de se faire élire. Son discours des primaires, c'est le discours que l'opinion publique américaine veut entendre. L'opinion publique américaine, au-delà des 2 guerres mondiales et de tout l'interventionnisme concret des différentes administrations républicaines et démocrates pendant toute la guerre froide, elle a toujours été isolationniste. Donc Trump est en train de leur dire ce qu'ils veulent entendre. Pour se faire
mais
élire.
C'est peut-être pas ce qu'il a dans la tête. Et dans par ailleurs, ça, temps, il le dit, pardon de vous couper un tout petit peu, il dit, je suis un joueur de poker, je veux pas que les gens en sachent trop justement sur ce que je veux faire.
Exactement.
Je ferme la parenthèse.
Il veut gagner, il veut détruire Daesh en 2 jours et demi, c'est-à-dire concret, il veut augmenter les moyens de la défense, les moyens de l'establishment militaire. Comment il le finance, ça c'est compliqué en baissant les impôts, etc. Autre débat. Donc concrètement, il est prêt à intervenir de manière brutale. Son style de diplomatie est extrêmement confrontationnel. Pas du tout multilatéral, c'est-à-dire qu'il parle systématiquement d'un pays, d'un autre pays. On est dans une diplomatie bilatérale au mieux, où les États-Unis décident, proposent, comme si le reste du monde n'avait pas d'idées, pas de propositions à faire, et pas d'unilatéralisme possible. Donc il part du principe que les États-Unis sont toujours au centre du monde, ce qui est quand même discutable dans le monde d'aujourd'hui. Ils le sont toujours, mais c'est relativisé. Et On revient plus, c'est Thomas Wright, chercheur à la Brookings Institution, qui disait sa vision du monde est plus celle de la fin du 19e siècle, allez, année 1910, voire éventuellement l'entre-deux-guerres, mais on est, alors malheureusement pas sur du Theodore Roosevelt, on est plus sur du Taft, on n'a pas la vision internationaliste d'un Theodore Roosevelt qui a eu le prix Nobel de la paix quand même, on est sur une vision pas non plus unilatéraliste, on est sur un repli sur soi, où la négociation, nécessairement, c'est les États-Unis qui l'initient, qui la mettent en place, qui la dirigent. Ça n'est pas du tout le monde dans lequel nous sommes.
En fait, on va vers un retour d'une politique américaine plus traditionnelle en la
matière, en réalité. Et limite politique de la canonnière, limite, vous faites ce que je vous dis, sinon on intervient. C'est la menace envers la Chine actuellement.
Nicolas Dengan et puis Marc Sémon.
Je ne pense pas qu'il veuille dicter aux autres leur politique. Il veut simplement dire que je ferai ma politique sans écouter les autres, comme vous avez dit. Et par conséquent, je crois qu'il est très prévisible. Parce que il est très prévisible dans ses motivations, peut-être pas dans ses actions. Il n'a pas de vision du monde autre que America First. Il y a une interview dans le New York Times ce matin où il dit que je réunirai pendant les 100 premiers jours, d'ailleurs le premier jour, les généraux et les chefs d'entreprise. À l'exception, donc, à l'exclusion même des diplomates et des hommes politiques. Et il dit, je veux, alors ça c'est le modèle Kennedy encore, je veux un vice-président qui peut être efficace sur la colline du Capitole, donc qui peut travailler avec le Congrès. Mais tout ça, c'est des, pour lui, ce sont des outils de mise en œuvre de sa politique qui changera au jour le jour, mais avec toujours cette idée que America first et je veux gagner.
Marc Sémon.
Oui, alors, c'est vrai que c'est d'autant plus difficilement lisible qu'il multiplie les déclarations contradictoires. Mais il y a quand même un certain nombre de lignes de force, hein, sur justement ce repli, sur ce retour d'un isolationnisme. Mais moi, il y a une phrase qui quand même m'intrigue beaucoup. C'est quand il dit « je veux rendre la politique américaine imprévisible ». C'est-à-dire, non pas qu'elle varie selon ses coups de tête, mais d'une certaine façon, qu'elle puisse désorienter ses adversaires et être perçue comme menaçante. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Non, mais ça, c'est peut-être pour l'électorat, mais admettons que là-dessus,
il soit sérieux. Pour que l'Amérique gagne dans la négociation.
Mais qu'est-ce que ça pourrait être?
On va distribuer la parole. Annick Sizel et puis Nicolas Dengan. Annick Sizel.
Alors moi, j'ai lu cette phrase comme un coup bas très méchant envers les agences de renseignement, envers un certain nombre d'agences fédérales autour de la défense, en règle générale, des États-Unis, défense et sécurité nationale, parce que ce que ça veut dire, quelque part, c'est qu'il n'y a plus de secret, c'est qu'il n'y a plus de stratégie, c'est qu'il n'y a plus de travail sur le terrain, alors que les États-Unis sont quand même déployés dans un certain nombre de pays du monde aujourd'hui, de manière visible ou pas. Ça semble vouloir dire que tout est sur Internet. Oui, il y a un énorme effort de communication de l'administration Obama. C'est vrai, il y a une forme de diplomatie publique, d'affichage des grandes lignes idéologiques de l'administration Obama en matière de politique extérieure. Ça ne veut pas dire que nous savons ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que l'opinion publique mondiale est mise au courant par avance. Tiens, demain, on va attaquer à tel endroit. Donc, quelque part, ça semble vouloir dire que les services chargés de, à la fois de prévoir, effectivement, d'anticiper et de mettre en place de manière sécurisée la politique extérieure des États-Unis ne font pas le travail.
Devenir imprévisible.
Il se fait très aimer avant toute chose.
Devenir imprévisible, qu'est-ce que ça veut dire sur le rôle
de Nicolas Dengan ? Je pense que l'analyse de Mme Sizel est beaucoup trop intelligente et beaucoup trop fine et sophistiquée.
Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Je pense que, d'abord, Trump ne s'y connaît pas en politique étrangère. Donc, en tant que candidat, l'une des choses les plus faciles, c'est de dire « je vais rien dire parce que je vais rester imprévisible ». Bon, ça, on peut penser à un homme politique français qui serait capable de dire le même genre de phrase. Je pense que la cible de cette imprévisibilité, si elle était sincère, n'était pas tellement les services de renseignement aux États-Unis, mais plutôt, je gardais ma marge de manœuvre, je n'exclus rien, c'est ce que Kissinger disait du docteur Follamour, justement, de Nixon. Je n'exclus rien, je peux utiliser l'arme nucléaire au Vietnam, etc. Donc, moi, je ne vais pas vous dire ce que je ferai à Daesh, mais Daesh le saura en temps voulu. Alors, je...
Mais est-ce que, d'une certaine manière, ce n'est pas aussi dire... qu'il va ressembler à Poutine. On a dit plusieurs fois Poutine était aussi, d'une certaine manière, imprévisible. Est-ce que c'est pas une manière de dire, bah, je vais faire un peu comme la Russie. Ouais. Vous voyez, ça fait des mois, pour dire des années, que Poutine a repris la main, qu'il est revenu comme ça sur le devant de la scène. Et ben, je vais la jouer comme Poutine, quoi.
Ouais. Qu'il admire.
Annick Cizel.
Oui. Oui, sauf que je doute que Donald Trump ait écrit lui-même son discours. Donc, la question, c'est qui l'a relu avant, d'où le fait que j'ai essayé de comprendre quelque chose. On est quand même à l'époque aussi de Snowden et d'un certain nombre de lanceurs d'alerte et effectivement d'une transparence forcée, voulue, qui n'est pas nécessairement demandée par l'électorat de Trump, mais qui est demandée par une partie de l'électorat. Et je me demande aussi si ce n'est pas une réponse, mais... parce que je pense que le discours a été écrit par des gens qui effectivement réfléchissent à l'impact, réfléchissent au fait que ce discours va être lu et disséqué aussi par les ambassades du monde entier. On attendait cette déclaration de Trump. On attendait quelque chose de cohérent, quelque chose de construit, quelque chose qui poserait des lignes aussi pour rassurer le reste du monde, parce que véritablement, les phrases contradictoires un jour sur deux, ça ne rassure pas exactement l'économie mondiale. La route est longue jusqu'au mois de novembre. Si ce discours a été effectivement construit, je pense qu'il est aussi une réponse aux lanceurs d'alerte. Il a déclaré par ailleurs qu'il continuerait toute la surveillance NSA, etc. et voir qu'il l'amplifierait. Donc je pense qu'il y a un petit tacle de ce côté-là aussi.
Il y a une autre chose qui ne rassure pas véritablement, c'est la guerre économique qu'il veut lancer à la Chine. Ça, c'est terrifiant. Quand on l'entend, par exemple, c'est avec des propositions de taxer les produits chinois à hauteur de 45%, des choses comme ça. Ça, et par ailleurs, du côté de Pékin, ça a réagi. Là, ça commence à réagir. Annick Cizel.
On est dans un coup de force permanent pour l'instant, qui est extrêmement rhétorique, qui fait fi de la Constitution des États-Unis totalement, c'est-à-dire comme s'il n'y avait pas de législatif, comme s'il n'y avait pas de contre-pouvoir, comme s'il n'y avait pas de Cour suprême, comme s'il n'y avait pas de législation internationale non plus. D'ailleurs, c'est-à-dire que quand il annonce les mesures de rétorsion contre la Chine, la Chine n'est plus membre de l'OMC et l'OMC n'existe plus, parce qu'il me semble quand même que monter les droits de douane autant de, je ne sais plus, 45% ou je ne sais plus combien, enfin, c'est contraire à toute la législation internationale. Donc, il est tout seul, pour l'instant, sur le toit du monde, mais parle à une Amérique qui, quelque part, fonctionne comme ça. C'est l'Amérique du centre des États-Unis très large, c'est-à-dire hors côte, hors orientation pacifique sur la côte ouest, atlantique sur la côte est. C'est une Amérique qui n'écoute que les médias américains, qui ne connaît pas le reste du monde. Et Trump est à cette image, qu'il le soit réellement dans sa tête ou qu'il le soit pour raison électorale actuellement, il est le miroir de cette Amérique.
C'est ce qu'on appelle les flyover states, hein, les États que les gens bien pensants aux États-Unis ne voient que de leur avion en allant de la côte est à la côte ouest et inversement. Je pense qu'il faut souligner quelque chose aussi qui va ajouter aux incertitudes. Annick Cizel disait que la route est longue jusqu'au mois de novembre et qu'elle ne veut prédire rien. Je pense que ces gens qui haïssent, ces gens méchants qui haïssent Hillary Clinton sont aussi réels, ce dont je parlais tout à l'heure. Et je pense qu'ils vont lui... il faut qu'ils attendent quelle est l'investiture du Parti démocrate. Mais dès lors, au mois d'août, ils vont lui lancer des barrages et des bombardements de peau de banane. Et les Clinton ont peut-être des choses à cacher, mais même s'ils ne les ont pas, en fait, ce que, à mon avis, ces gens-là vont essayer de faire, c'est de déstabiliser, de décrédibiliser, d'affaiblir Hillary Clinton un maximum. S'il paraît, et on n'a pas parlé d'impeachment, mais le problème, c'est que s'il paraît qu'elle ne deviendrait présidente que pour être impeached, ou pour être pas mise en examen, mais mise en accusation, à ce moment-là, il faudrait qu'elle se retire au milieu de la campagne. Et qu'est-ce qui se passe alors? C'est que les démocrates vont chercher un candidat. Or, il n'y en a qu'un. C'est Joe Biden. Et il y a toutes les chances, et on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais il y a toutes les chances que Joe Biden devienne le prochain président des États-Unis.
Ah bah voilà une hypothèse intéressante et inattendue, Annick Cizel.
Il a beaucoup
plaisanté. Ah, vous attendiez pas à celle-là. Hein.
Il a beaucoup plaisanté. Préciser,
c'est à cause de l'affaire des mails. Là.
Absolument, oui, oui. Pardon. Parce qu'elle avait envoyé à l'époque où elle était secrétaire. Voilà, elle avait envoyé ses fameux mails par sa boîte personnelle. Et pour ça, elle pourrait être effectivement empêchée. D'ailleurs, il y a un certain nombre de personnes qui viennent d'être entendues cette semaine dans l'entourage d'Hillary Clinton. Et il se pourrait bien que très vite, ça soit son tour. Voilà, Annick Cizel.
Joe Biden a fait beaucoup d'humour hier ou avant-hier en disant qu'il déclinerait d'être le vice-président de Donald Trump. La question lui était posée, effectivement, de est-ce qu'il allait réapparaître sur la scène nationale ? À suivre.
Marc Zemmour, alors là, ça serait vraiment inattendu comme scénario.
Ça serait un coup de théâtre. Voilà, cette élection, on ne manque pas pour le moment, cette campagne. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want.
You can't always get what you want, évidemment, parce que ça, c'est vraiment aussi l'une des polémiques du moment, hein, les Stones qui ont demandé à Donald Trump d'arrêter d'utiliser ses chansons. Alors, en fait, quand on regarde un petit peu les règles, les hommes politiques, les femmes politiques peuvent absolument les utiliser. Il faut simplement payer les licences globales qui sont octroyées par les associations habilitées. Donc, Donald Trump peut parfaitement utiliser cette chanson. Ça fait des droits aux Stones, c'est voilà, hein.
Exactement.
C'est très en phase avec la diplomatie cubaine, donc il n'y a absolument aucun souci, puisque les Stones ont célébré, ont été premier concert de rock à Cuba, donc c'est dans l'air du temps.
Vous avez raison. Ouais. Bon, nous, on a demandé l'autorisation à Mick, il était d'accord. Allez, merci beaucoup à vous, Annick Cizel, je rappelle, enseignante-chercheuse à l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. À vous, Nicolas Dengan, notamment chercheur à l'Atlantic Council, mais aussi enseignant à Sciences Po et conseiller à l'IRIS. Et à vous, grand merci, bien sûr, Marc Zemmour du journal Le Monde, notre partenaire, le vendredi. Dans un instant, sur France Culture, on retrouve La Grande Table avec Caroline Brouet. Mais juste avant, comme chaque jour sur France Culture, La Vie Moderne. Très belle journée et à lundi. Get your prescription filled.